Quand mon premier poisson d'appartement est mort, j'ai invité mon frère à venir à la maison afin de lui dire au revoir dans une grande cérémonie solennelle. On s'est installé autour de la toilette, on a fait jouer Bye 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 de Plants and Animals dans le tapis, on a regardé le petit poisson tomber dans la toilette, puis on l'a flushé. Et même si j'ai essayé fort, 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 j'ai comme pas été si triste que ça. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, on vous parle de poisson. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui, chaque semaine, au travers de reportages, personnages et ambiances, tourne autour d'un mot. Cette semaine, vous l'aurez compris, on tourne autour de poissons. Et on s'est rendu chez Aquarium Terre et Mer à Verdun pour régler une fois pour toutes la question. Un poisson, c'est pas mal l'animal de compagnie le plus plate au monde, non?
Non, pas du tout. Techniquement, nous, on appelle ça du living art. C'est des animaux qui bougent, ça fait beau, ça te relaxe, ça fait un environment qui te relaxe beaucoup, personnellement.
Donc, quand je dis un bibelot vivant, j'avais raison, tu vois ça comme une œuvre d'art.
Tout à fait, oui. Avoir plusieurs poissons, ça fait plus lourd, ça t'excite. J'ai déjà eu des gens ici qui arrivent, puis « Oh non, vous avez tel poisson! » Puis il y en a des fois qui cherchent des années pour une certaine poisson, juste pour les avoir dans leur collection.
Il y a moyen de s'exciter autour de poissons? Ça peut être palpitant?
Ah, définitivement, oui. Ouais. Il y a beaucoup de monde ici qui sont... Ils collectionnent, puis ils adorent ça. Il n'y a rien d'autre pour eux. Il y en a des gens qui disent « Ah, pas de chien pour moi, c'est les poissons. » Puis ils investent tout là-dedans. Comme tu investirais l'argent à faire toiletter ton chien ou ton chat, eux, ils investent des nouvelles roches, des nouvelles lumières, un nouveau tableau pour ton aquarium, grossir l'aquarium, ajoute plein de choses.
Votre poisson le plus cher que vous avez, c'est lequel?
Le poisson le plus cher, ce serait l'arrêt.
Ça, c'est...
Oui. On nous en vend des petits cobrets.
OK, oui, c'est les poissons plats, donc...
Oui. C'est des vrais raies, mais ils restent petits, fait qu'ils peuvent faire dans des aquariums de maison. Et non les gros que vous voyez, comme au biodôme, etc. Fait qu'ils restent petits.
Et donc, quand on dit cher, on dit combien?
On parle de vers une centaine de dollars. Elle joue.
Ah, elle est à l'envers.
Oui, elle joue.
Et donc, si le maximum, c'est une centaine, ça fait des collections quand même pas si chères que
pas
ça.
Pas si chères que ça, justement. C'est pour ça que les gens, ils s'intéressent beaucoup.
As-tu des poissons chez toi?
Moi, non, j'ai seulement une murène. C'est une anguille, mais on appelle ça une murène. Okay. Ouais.
Longue comment?
Longue, elle a juste 2 pieds. Et bébé encore.
Ah, puis t'espères qu'elle va se rendre à combien?
6 pieds.
Ça va dans quel aquarium, 6 pieds de poissons?
Non, pas du tout. Elle va aller dans un monde de 150 gallons, 200 gallons, elle, tout seul. Déjà là, elle a juste 2 pieds, puis elle a tout ça pour elle.
Donc, toi, tu les collectionnes pas, t'en as juste...
Moi, c'est plus des murènes. Ça, c'est plus ma collection.
Une pièce de collection.
Oui, une pièce, juste pour elle.
Je sais pas si t'es voix.
Ah, oui. T'es jamais sûr si ça, rit ou si c'est fâché?
Non, c'est pas mal tout le temps fâché. Pas mal tout le temps fâché.
Puis, est-ce que c'est dangereux de se faire mordre?
Pas dangereux, mais ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal, oui. Ça pince. Ils ont des dents. Très pointu. Ils mangent généralement la viande, d'autres poissons. Tu peux pas mettre grand-chose avec.
Tu les nourris à la viande?
Oui. Ils aiment souvent des crevettes, shrimp, tout ça. Ils adorent ça. Surtout d'autres poissons. Oui.
Et donc, il y a quand même une notion de danger dans le poisson. C'est pas juste quelque chose qui flotte doucement.
Non,
ça peut
non,
être aussi dangereux.
Non, c'est sûr que entre les poissons, c'est fish eat fish world. C'est tout dépendant de qui tu mélanges avec qui. Il y a tout le temps une chicane où quelqu'un va se faire bouffer. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on suggère tout le temps aux gens. C'est de choisir un poisson qui t'attire beaucoup. Et en plus, de venir nous chercher, venir nous demander qui va avec qui. Il y a beaucoup de pet shops qui vont vous vendre n'importe quoi juste pour faire que ça soit beau, mais tu vas perdre des poissons à long terme. Juste en poisson rouge, mon patron peut me payer juste en poisson rouge parce que les gens reviennent à chaque semaine. Mais quand les gens disent « Ah, mais c'est un poisson rouge, 1 $, 30 cents, mais 30 cents plus 30 cents plus 30 cents plus 30 cents, à la fin du mois, là, je suis garantie à tous les gens qui viennent ici, ils peuvent me payer mon salaire en poisson rouge. » Beaucoup de gens, surtout comme même mes parents personnellement, ils disent « Ah, un poisson rouge, ça va dans un bol. » Mais si tu veux un poisson rouge qui vit, qui devienne gros, le monde ne savent pas que les poissons rouges peuvent vivre 10-15 ans. Ils savent pas. C'est supposé devenir 2-3 pieds un poisson rouge.
Donc, les poissons qu'on voit dans les restaurants asiatiques, souvent, c'est les mêmes qu'on achète?
C'est les mêmes que tu achètes au pet shop. Des tout petits dans l'aquarium que les gens vont mettre dans un petit bocal. Puis la raison que j'entends souvent, c'est « Oh, mais c'est juste pour ma petite fille quand même. » Mais c'est triste pour un enfant de se réveiller et voir son petit poisson qui flotte au top. Ils sont tristes. Puis les gens pensent que juste en remplaçant. Mais ça serait pas plus le fun qu'elle ait 16 ans puis elle dit à ses amis « Ça fait 16 ans que j'ai mon poisson. » Moi, personnellement, j'aimerais mieux ça qu'en remplacer un à chaque mois.
Ça peut durer 16 ans. On est vraiment poche avec nos poissons rouges. Je n'ai jamais vu un dépasser 6 mois, me semble.
Oui, mais comme justement, juste ici, on a des poissons rouges. Puis tu vois la grosseur, son bébé encore. Mais ils vont devenir la grandeur de ma main.
Ben, ton nom, c'est?
Moi, c'est Tiffany.
Et le nom du magasin?
Terre et mer.
À Verdun.
Oui.
Ben, merci beaucoup. J'ai quasiment le goût d'en avoir maintenant.
Oui, non, je sais ça. Mais l'eau salée, c'est beaucoup moins difficile.
S'appelle hier, prends le 16e main dans ma tête, il est pour toi. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neuve. Je le connais bien, le chemin du plus lâche, mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neuve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neuve. Vole-moi de ton mieux, vole-moi davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neuve. Qui s'en vient, flambe en neuve. Et nous, la vie rend aveugle, nos yeux qui s'habituent à la noirceur. Et nous, la vie rend aveugle, nos plus beaux accidents.
Allô?
Mon frère habite à Prague depuis environ un an. Le 25 décembre, c'est donc la première fois qu'on passait notre Noël séparés. Mais quand même, on s'est parlé via Skype. Quand je l'ai appelé, j'étais dehors. Et mon frère est comme devenu hystérique en voyant de la neige et donc heureux. Alors j'ai demandé si ça lui manquait tant que ça, s'il était si nostalgique. Et ce qu'il m'a répondu, c'est que c'est pas tant de pas voir de la neige que le fait qu'elle soit remplacée dans les rues de Prague par du sang. Je l'ai donc appelé à nouveau pour qu'il nous raconte son histoire.
Zastavte se, milí pane, něco vám povím, která se chcete dřív dávat, já vám poradím.
Donc, à Prague, 3 à 4 jours, je dirais, avant Noël, pas à chaque coin de rue, mais à chaque, je dirais, 2-3 coins de rue, puis sur les namiesti, qu'on appelle, c'est-à-dire les places publiques, donc devant les églises, dans les parcs et tout, il y a ce qu'on appelle des espèces de kiosques de carpes, la carpe étant le poisson national de Noël. Pour les Tchèques, nous, c'est la dinde. Pour eux, ça va être des grosses, des immenses carpes. Donc, chaque kiosque a son espèce de... il y a environ 4 à 5 bassins d'eau. Le monde choisit la carpe qu'ils veulent, donc celle qui trouve la plus intéressante, la plus globuleuse et la plus appétissante. Ensuite, s'ensuit la pêche avec l'espèce de filet, puis la pesée. On a le choix entre la garder vivante ou l'acheter éventrée, viscérée et tout. Donc, c'est un coup de... Le poissonnier va asséner un coup de maillet sur la tête du poisson, puis il va exactement l'ouvrir. Autour du petit kiosque de poisson, justement, il y a plein de viscères, il y a plein de tripes de poisson, de carpe. Il y a plein de sang partout. Puis ça sent le poisson, en fait. Ça sent vraiment la carpe. Donc, l'odeur de Noël, pour moi, en tout cas, moi, je l'associe à... À Montréal, je l'associerais peut-être aux clémentines qui viennent du Maroc, mais ici, je l'associerais vraiment au poisson puis à la carpe. Puis la République tchèque n'étant pas un pays comme nous, doté de beaucoup de rivières et de lacs et tout, il se crée des espèces de lacs artificiels pendant toute l'année. Donc, il y a l'élevage des carpes. Puis quelques jours avant Noël, ils vident ces lacs-là artificiels pour récolter les dites carpes. Fait que un peu partout en République tchèque, il y a comme de moins en moins de lacs, quelques jours avant Noël. Il y aurait certaines histoires comme quoi il y a certaines personnes qui vont la rapporter chez eux puis la mettre dans le bain pendant quelques jours avant Noël. Puis il y a des histoires comme quoi justement des enfants se seraient attachés, plusieurs enfants en fait s'attacheraient à la carpe. Puis donc quelques jours après Noël, il y aurait comme une espèce d'attroupement autour de la Vltava, qui est la rivière qui traverse Prague en fait. Il y a plein de monde qui vont justement jeter leurs cartes parce que devant les yeux attristés de leurs enfants qui ne voulaient pas voir leurs pauvres cartes éventrées et mangées par la famille à Noël.
Si vous avez un substrat de culture catholique, vous savez sans doute que le vendredi, on se doit de manger maigre. Et par maigre, on entend habituellement manger du poisson. À l'époque moderne, c'est-à-dire sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, etc., jusqu'à la Révolution française et même au-delà, mais enfin, surtout dans cette grande période de la royauté française, on ne lésinait pas avec ce genre de dictat religieux. Et en même temps, on faisait, vous vous en doutez, de somptueux repas. Alors, comment faisait-on maigre le vendredi? Voici un exemple de menu qui pourra vous donner une idée de ce qu'était un repas maigre et en même temps, ma foi, peut-être vous donner quelques idées quand vous ne savez plus comment cuisiner votre poisson. C'est un extrait d'un menu d'une table de 12 couverts, ce qui est très peu, les couverts allaient souvent jusqu'à 60, voire 100, pour un souper du régent. Le régent, c'est donc celui qui a assuré le pouvoir entre le décès de Louis XIV et la majorité de Louis XV, donc au début du 18e siècle, autour des années 1720. Et c'est un repas qui est servi moitié gras, moitié maigre, donc on imagine que c'est pendant une période de certains niveaux religieux sans être un vendredi. Mais vous allez voir qu'il y a quand même moult poissons. Pour le milieu de la table, une grosse pièce, deux potages pour les bouts de table, 10 entrées, savoir 4 jattes et 6 plats à festons, etc. Premier service. Une pièce de bœuf salé garnie de carottes et de patates. Deux potages, savoir un maigre, coulis de brochet, un brochet, un potage de navet, un canard dessus. Oui, un canard sur le potage de navet. 10 entrées, savoir 4 dans 4 jattes et 6 dans 6 plats à festons. Les 4 jattes, savoir 2 filets de mouton glacés et piqués et des cornichons par-dessus, 2 poulets piqués de persil avec une sauce à l'espagnol dessus, 2 poulets, 2 brochets à la polonaise, un brochet, encore un brochet, comptez les brochets. De perches à la genevoise, 6 perches, une bouteille de vin blanc. Les 6 plats à festons, savoir de sauerkraut, j'imagine de la choucroute, de sauerkraut au maigre, un brochet, encore un brochet, un quarteron d'huître cuite avec une pinte de crème, d'une noix de veau à la napolitaine, de perdreau en levreau, 3 perdreaux, d'anguilles à la bavaroise, 2 belles anguilles, demi-cent de belles écrevisses. Est-ce que c'est 50 écrevisses? C'est ce que je crois lire. 2 plats de poisson pour relever les potages, savoir d'une carpe à l'anglaise, de waterfish, soit 2 douzaines de petites perches, 4 petits brochetons, bébé brochet, encore des brochets. Second service, reins de sanglier marinés, 2 plats de pâtisserie, savoir d'un gâteau fourré de marmelade d'abricot, ça quand même, d'une tourte à la glace, 6 pêches à l'eau de vie, une pinte de crème, on est rendu à 2 pintes de crème. 4 plats de roux, savoir des perlans frits, trempé dans des œufs épanés, de 2 poulardes, de soles frites, 2 belles soles, de 2 canards sauvages. 4 salades différentes avec 4 différentes sauces. 4 petits entremets chauds, savoir de riz de veau piqué et glacé, 6 riz de veau, 2 pieds de cochon à la Saint-Ménéhould, 2 petits pois secs à la crème, d'œufs pochés dessus, 2 pommes de rainette à la chinoise, 6 oranges confites. Je vous rappelle que c'est pour 12 couverts. Bon appétit! Oui, mais tous ces poissons qu'on devait consommer tous les vendredis et tous les jours à teneur un peu religieuse à la table du roi et de tous les grands, comment se les procurait-on? Parce que la mer de Paris, ça fait loin. Il n'y a pas les moyens modernes de réfrigération ni de transport. Eh bien, justement, on avait très à cœur le transport de poissons frais jusque dans la capitale, suffisamment pour avoir instauré très très tôt dans l'histoire française ce qu'on pourrait appeler une traçabilité du poisson. Finalement, en créant un corps de métier qui s'appelait les chasse-marées et qui était responsable justement du transport du poisson à partir des ports de pêche jusqu'à la capitale. Voici ce qui en est dit. Dans le Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou nouvelle édition du Dictionnaire de Brion, connu sous le titre de Dictionnaire des arrêts et jurisprudence universelle des parlements de France et autres tribunaux augmentés, publié entre 1781 et 1784. Poisson. On consomme à Paris beaucoup de poissons de mer, frais, secs et salés, et beaucoup de poissons d'eau douce. On favorisa ce genre d'approvisionnement dès le temps de Charlemagne. Cet empereur, dans son célèbre capitulaire Devilis, veut qu'on vende avec soin les poissons de ses étangs et qu'on les renouvelle successivement. Ut pisces de vivaris nostris venundentur et alii mitentur in locum, ut pisces semper habeamus. C'est le nom de l'arrêt, c'est en latin. Bon. Plusieurs ordonnances de police ont déterminé les précautions à prendre par rapport à la santé. Et ici, nous devons nous borner à tout ce qui est relatif aux moyens de procurer à la capitale l'abondance de toutes les espèces de poissons et d'en faciliter l'approvisionnement. Arrêt du Conseil du 14 février 1733, qui fait défense à tout officier, juge de police, gentilhomme et autres personnes, d'empêcher les chasse-marées d'acheter librement le poisson dont ils auraient besoin pour la provision de Paris et de les troubler dans le transport de cette denrée à peine de 3000 livres d'amende. Bon, vous ne savez pas, là, mais 3000 livres, c'est vraiment une grosse somme. Sa Majesté ordonne que les lettres patentes du 13 avril 1350, 26 février 1351, l'édit du mois d'avril de la même année, l'arrêt du Parlement de Paris du 4 septembre 1511 et l'ordonnance du 20 janvier 1696 seront exécutées suivant leur forme et teneur. En conséquence, que les chasse-marées pourront acheter librement le poisson dont ils auront besoin pour l'approvisionnement de Paris dans toutes les villes, ports de mer, pêcheries et autres endroits des provinces de Bretagne, Normandie, Flandre et Picardie. L'édit du mois de février 1776 ayant supprimé les offices de jury vendeur de poissons, très anciennement créés, et depuis plusieurs fois supprimés et rétablis, il était essentiel de pourvoir à ce que cette suppression n'altérât en aucune manière la police relative à un genre de comestible aussi important que le poisson. En conséquence, un arrêt du Parlement de Paris du 31 décembre 1776, renfermant 12 articles, a pourvu à tout ce qui concerne ce genre d'approvisionnement. Voici un précis des essentiels. Premièrement, toute la marée fraîche sera amenée en droiture aux Halles de Paris pour y être vendue aux plus offrants et derniers enchérisseurs et les droits perçus sur le prix de la vente avec défense de la vendre ailleurs ni autrement. Cette vente doit commencer à 3 heures du matin. Deuxièmement, la marée sera reconnue à l'instant qu'elle aura été déchargée pour vérifier si elle n'est pas gâtée, viciée ni corrompue, après laquelle vérification, les commis de l'adjudicataire des fermes générales en feront faire les enchères par des commis crieurs préposés à cet effet. Troisièmement, l'huissier garde de la marchandise veillera à ce que tout se passe en bon ordre et que les trempies ne soient point corrompues. Trempie, j'imagine, c'est là où trempent les poissons. L'adjudicataire ou ses commis feront l'estimation du poisson d'eau douce à son arrivée, soit par eau, soit par terre. Et s'il survient à ce sujet quelques difficultés pour les grosses parties, ils en avertiront le procureur général sur le fait de cette marchandise pour y être statué sur le champ. Lettre patente du 2 octobre 1780 qui ordonne que les chevaux et voitures chargés de poissons de mer frais destinés pour l'approvisionnement de Paris traverseront librement en passe debout la ville de Bayeux sans y payer les droits de tarif sur les denrées à la charge pour les voituriers d'exhiber aux commis un acquis à caution qui justifie de la destination et de rapporter dans la huitaine cet acquis déchargé par le commis de la Halle de Paris. Vous voyez qu'on ne rigolait pas avec l'approvisionnement en poissons frais sous l'Ancien Régime en France. Est-ce qu'on a la même traçabilité aujourd'hui?
Rester avec moi, force-toi pas, t'as pas signé contrat. Même si des fois j'ai pas toute ma tête, à force de faire la fête. Un peu trop sans raison. Je sais même pas si j'ai assez sur moi pour te garder ou ben juste sortir. Yeah. même si je suis bien, je suis toujours sa défense. Ça c'est le résultat de conclusions trop intenses. Encore une fois, il est pas trop tard pour me dire au revoir quand tes affaires t'enfuient. J'crois pas au parti pour mieux revenir. Moi j'suis au parti. Ça, si tu veux rester, viens donc coucher. Commence à se faire tard sur mon corps.
La croyance populaire veut que les poissons rouges aient une mémoire de 3 secondes. Ma croyance populaire pensait plutôt que c'était 7 secondes. Et cette idée-là nous arrange, hein, parce que c'est sûr qu'on aime mieux s'imaginer qu'à chaque instant, notre poisson redécouvre les raccoins de son mini-bocal, comme pour la première fois, au lieu de penser qu'il est probablement suicidaire depuis sa naissance. Malheureusement pour notre bonne conscience animale, la croyance populaire est complètement fausse. Une récente étude démontre même que non seulement les poissons savent reconnaître un son associé au repas, on peut ici faire référence au réflexe de Pavlov, mais savent le reconnaître même jusqu'à un an après avoir retrouvé leur liberté. Vous écoutez dans le champ lexical, et au cas où vous l'auriez oublié parce que vous êtes un peu moins fort qu'un poisson rouge, aujourd'hui, on parle de poissons.
Sylvain Daigue, vous êtes porte-parole de l'Association des sceptiques du Québec, donc vous êtes vous-même un sceptique. Quand je vous ai appelé pour vous demander si vous voulez faire une entrevue parce que j'avais une émission de radio, m'avez-vous cru ou vous m'avez mis en doute?
Bonne question. Ben, en fait, généralement, quand je mets en doute, c'est parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, comme ça me semblait relativement plausible, j'ai pas trop douté, non. Ça va.
Donc, quand on dit un sceptique, c'est pas quelqu'un qui doute de tout le temps?
Non, le scepticisme, c'est plus une attitude face à tout ce qu'on peut entendre et se faire dire. Parce que, bon, c'est, en fait, les sceptiques du Québec, c'est de promouvoir la pensée rationnelle et l'esprit critique, au cours de la rigueur scientifique, en fait. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau des sceptiques, c'est de trancher entre un fait et une croyance. Donc, quelque chose qui nous apparaît soudainement, bon, avant d'être testé rigoureusement puis d'être démontré comme étant un fait, nous, on relègue ça dans les croyances. Mais, autrement dit, c'est d'essayer de faire la distinction fondamentale entre un fait et une croyance. C'est à peu près tout ce qu'on fait.
Je vais poser une question très, très, très dure, peut-être, pour le public, mais ça va faire un lien avec le mot de la semaine, poisson. Trouvez-vous que les gens, en général, sont trop poissons?
Trop poisson, ce serait un peu dur, effectivement, de dire trop poisson. Ça dépend des gens. Puis, le mot poisson, évidemment, c'est un côté un peu péjoratif, là. Ce que je pourrais dire, c'est peut-être les gens ont une tendance naturelle à être un peu naïfs, mais c'est une belle naïveté. Dans le sens que quand on est jeune, on apprend. Une des premières affaires qu'on apprend quand on est bébé, c'est de faire confiance. C'est fondamental dans le développement d'un enfant. Donc, c'est de faire confiance aux autres. Fait que tant qu'on n'a pas de raison de douter ou de craindre ou de remettre en question l'autorité, qui est la maman et le papa, ben on a cette naïveté-là. Puis cette naïveté-là, souvent, ça se prolonge jusqu'à l'âge adulte, puis c'est là que des gens en profitent. Puis c'est un peu contre ça que je me bats, moi, pour empêcher des gens, justement, de se faire scraper un peu, si on peut dire, leur naïveté. Fait que d'être poisson dans ce sens-là, ce serait une qualité. Ce serait d'avoir confiance en les gens. Quand les gens disent quelque chose, pourquoi d'emblée on ne croirait pas? Donc,
quels sont les domaines où il y a le plus de gens qui vont à la pêche, justement, pour pogner des poissons?
Des domaines pires que d'autres, c'est sûr que tout ce qui traite du paranormal est un domaine très fertile en pêcheurs, si on peut dire. Évidemment, il y a des domaines où c'est plus lucratif, là, comme les cas Norbourg, entre autres, tout le domaine des placements, bon, il y a de l'argent à faire rapidement.
Est-ce qu'une démarche de sceptique aurait pu prévenir les gens de tomber dans le Norbourg?
Un peu, c'est certain. C'est certain que placer son argent, ça demande de faire confiance en l'institution en laquelle on place cet argent-là. C'est sûr qu'une personne qui arrive et dit « Bien, regarde, moi, j'ai un ami qui, bon, ça peut, de douter, en tout cas dans ce contexte-là, c'est, effectivement, ça peut protéger un peu en ce sens-là, oui. »
Auriez-vous des trucs à nous donner pour être moins poisson dans la vie?
Oui, en fait, ce que je proposerais, ce ne serait pas nécessairement des trucs. Ben oui, des trucs éventuellement pour être moins poisson. Mais ce que je vous propose, c'est d'utiliser un de mes sujets préférés là, du paranormal, l'astrologie. Parce que, bon, dans les différentes croyances, il y en a qui sont pas démontrables, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que l'astrologie, ça se démolit quand même assez facilement. Donc, puis ce que je vous propose, parce que bon, qui dit poisson dit aussi c'est un signe astrologique. Donc, en vous montrant les six trucs utilisés par les astrologues, je présume que ça va protéger un peu les gens de ces charlatans. Donc, le premier truc, c'est les astrologues se servent souvent de généralités qui s'appliquent à peu près à une majorité de personnes. Par exemple, on va vous dire d'importantes nouvelles vous parviendront au cours de la journée. Bon, c'est quoi ça, une importante nouvelle, t'sais? Donc, c'est un peu normal qu'une majorité de gens aient une nouvelle quelque part dans la journée. Deuxième truc que les astrologues vont faire, c'est qu'ils vont utiliser des terminologies non compromettantes. Par exemple, « vous risquez de » ou « vous aurez tendance à » ou « tout paraît que » ou « il pourrait arriver que ». Des phrases un peu... Donc, si ça arrive effectivement... Ben, aha, on l'avait prédit, mais si ça n'arrive pas, ben, j'ai pas dit que ça allait arriver. C'est peut-être, tu sais, le troisième truc, c'est l'astrologie emploie des conjugaisons de verbes évasives. Par exemple, un montant d'argent finira par rentrer. Bon, finira par rentrer. On parle-tu de la journée? Quand? Puis un montant d'argent, c'est quoi? C'est-tu 200, 300, 3000, 5000, 50 000? C'est combien? Puis c'est quand? C'est ça, on n'en parle pas. C'est très évasif. Fait que là, quand les gens retiennent que ça, s'ils reçoivent un montant d'argent, même dans 3 semaines plus tard, ben ils vont... l'astrologie l'avait prédit. Quatrième truc, on va utiliser des expressions que l'on peut interpréter de plusieurs manières. Par exemple, de bon augure. Les voyages, études ou projets sont sous de bonnes augures, de bons augures. Ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut absolument rien dire, finalement. Le cinquième truc, c'est l'astrologue, il voit de bons conseils qui profiteraient de toute façon à n'importe qui. Par exemple, dans vos sorties, n'emportez pas trop d'argent, vous risqueriez d'en perdre ou d'en égarer, t'sais. Évidemment, tu sais, on s'attend pas à d'autres choses.
Mettez votre sucre quand vous sortez l'hiver, vous pourriez attraper une grippe.
Ben oui, c'est ça, en plein ça. Ou il serait temps de vous interroger sur ce qui est vraiment le plus important pour vous. Tu sais. Et le dernier truc, le sixième, donc, les vérités évidentes. Du genre, au travail, vous devez être entêté pour obtenir ce que vous désirez, car rien ne viendra aisément. Tu sais. Ben, c'est clair, ça. Ou certains des natifs de ce signe travailleront très fort. Oui, il y en a qui vont travailler fort, mais d'autres que non. Donc, puis là, les trucs qui sont là, prenez n'importe quel horoscope, puis regardez, puis vous allez voir, là, c'est vraiment ces trucs-là qui sont utilisés, là, ce n'est que ça. Puis si je pourrais finir sur un genre de grand truc, si on peut dire, c'est un peu d'avoir une attitude de méfier, surtout quand c'est extraordinaire. Il y a Cyril Barrette, qui est un biologiste un retraité là, maintenant à l'Université Laval, qui était venu faire une présentation à un moment donné, qui avait dit qu'à prétention extraordinaire, on est en droit, et c'est sain de la part d'un être humain, d'exiger des preuves tout aussi extraordinaires. Ce qu'il avait donné comme exemple, il disait, si jamais, par exemple, on vous dit demain matin, il annonce une tempête de neige, c'est une affirmation banale. Oui, je vous mettais au média. OK, donc tu as été voir sur le site. Ça vous convient. C'est réaliste. Ça va. Mais si je vous dis demain matin, le Mont-Royal va faire irruption puis il va engloutir l'île de Montréal, Ça, on s'entend pour dire que c'est une affirmation extraordinaire. Puis c'est sain, encore là, de votre part, d'exiger une preuve extraordinaire à ça. Parce que là, ça a un impact majeur, on s'entend. Donc, si je vous dis, ah, ben, moi, j'ai vu ça dans un songe cette nuit, t'sais. Disons que ça pèse pas très lourd là, pour commencer à penser à vendre votre maison puis de déménager là, à course. Là. C'est un peu ça l'idée, c'est que quand on vous affirme quelque chose d'extraordinaire, et la télépathie, la télékinésie, la voyance, voir le futur, tout ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est pas des choses qui sont banales. Puis c'est pas vrai que je vais me contenter d'une petite preuve banale écrite dans un site internet d'astrologie pour adhérer à cette idée-là. Donc, c'est pour ça que le fardeau de la preuve revient toujours à ceux qui prétendent, puis c'est sain, je pense, c'est d'être sceptique en ce bas monde.
Sylvain Daigle est le porte-parole des sceptiques du Québec. Les sceptiques organisent des conférences le 13e jour de chaque mois. La prochaine aura donc lieu le vendredi 13 avril. Et aura pour thème les dangers des radiofréquences. Vous pourrez donc aller poser vos questions sur le sujet au physicien Richard Leonelli. Pour plus de renseignements sur cette conférence, passez au sceptique avec un s.qc.ca. Vous trouverez également sur le site une foule de textes sur tous les sujets possibles, du collier de noisetier à la table qui fait parler les esprits en passant par le feng shui. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir un petit peu moins poisson.
Chers amis et copropriétaires de la pêche à Marsouin, je suis heureux que vous ayez répondu en aussi grand nombre à l'invitation qui vous a été faite ce midi à la porte des églises. Comme vous le savez toutes, depuis 15 jours, on parle de pêche à Marsouin. Je vous ai déjà dit que la pêche à Marsouin était la propriété des citoyens de l'île aux coudes. Il y avait 32 propriétaires qui avaient acheté la pêche en 1778. Ils l'ont tendu plusieurs années, et puis avec la mévente des produits, de la pêche, ils l'ont arrêté 50 années. Maintenant, étant donné cette année, qu'il m'est venu une idée, que la pêche à Marsouin, dont nos vieux tendaient, qu'on pouvait relever ça. C'était pas tout de tendre la pêche à Marsouin. C'est plus comme c'était il y a 50 ans. Alors, j'ai prévu que fallait commencer à être capable de vendre le produit de la pêche à Marsouin avant de parler de la tendre. Je suis allé à Québec. Seul, le surintendant de l'aquarium m'a promis qu'il nous achètera du produit de la pêche tout de suite, 4 marsouins, à 500 piastres pièce, pris dans la pêche, en vie par eux-mêmes, sans qu'on y touche. La pêche n'a seulement qu'à les garder dans la pêche. Est-ce que ça vous va ce que je vous dis là?
Pour la suite du monde est un documentaire de Pierre Perrault et Michel Brault, produit par l'ONF en 1963. À la demande des deux cinéastes, des habitants de l'île aux coudres ont accepté de se mobiliser pour reprendre la pêche traditionnelle au beluga, appelée ici marsouin. Et on le sait, le beluga, c'est un mammifère, pas un poisson. Mais on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de vous faire passer ce chef-d'œuvre, ce classique du cinéma québécois.
Les autres, ces jeunes-là, eux autres, ils n'ont jamais attendu de pêche à marsouin. Les autres, on l'attend. Ça prend du matériel, puis ça prend du terre encore, puis après ça, on ne tendra pas sans truc.
Non, monsieur.
Viens en machine.
Pourquoi c'est tendu comme ça?
La pêche à Marsouin attend pas pour nous autres. Elle n'attend pas pour nous autres. La mer attend pas pour nous autres.
C'est justement la raison pourquoi c'est qu'on va marcher. Se
mettre là après qu'on va finir.
Thank you. Si les poissons sont muets et que l'océan était pour Jacques-Yves Cousteau le monde du silence, ils ont quand même inspiré pas mal de chansons. Pour Michel Rivard, les poissons sont un décor de vacances. Dans Ma blonde et les poissons, un matin d'hiver lui fait regretter la Guadeloupe où l'air est beau, où les palmiers viennent chatouiller l'eau, mais surtout où il a vu sa blonde sans son maillot, sans ses sandales et sans son pareo, taquiner les poissons et même leur chanter des chansons sous l'eau.
En Guadeloupe, où l'air est beau, où les palmiers viennent chatouiller l'eau. J'ai vu ma blonde sans son maillot, sans ses sandales et sans son pareo. Taquiner le poisson.
Dans la chanson « Un petit poisson, un petit oiseau », Juliette Gréco nous raconte l'histoire d'amour impossible entre un petit oiseau et un petit poisson. Comme les deux pigeons de la fable de La Fontaine, les deux s'aiment d'amour tendre. Mais comment faire? Comment s'y prendre quand un vole là-haut et que l'autre nage en bas? Les deux ont beau imaginer des métamorphoses qui permettraient à leur idylle de se concrétiser, il semble que la nature condamne nos deux amoureux à la passion platonique.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson.
Si un poisson et un oiseau avaient réussi à consommer leur amour, aurait-il eu comme descendance un poisson volant? C'est justement à cette espèce de poisson que René Lucier compare son bonheur dans la chanson « Poisson volant ». En effet, quand le bonheur le prend, un duvet d'écaille allège son sang, il nage dans le ciel et vole dans l'océan.
Je vole dans l'océan.
Connaissez-vous la truite de Schubert? Non, ce n'était pas son animal de compagnie ni son mets favori, mais une quintette. On la surnomme la truite car le quatrième mouvement est un thème varié sur un lied de Schubert, lui-même inspiré d'un texte de Schubert et qui parle de truite. Vous me suivez toujours? Bref, le quatuor vocal Les Frères Jacques, sur un texte de Francis Blanche, en a fait une chanson fantaisiste où une jeune fille qui affectionne particulièrement le fameux air de Schubert ne peut s'empêcher de le fredonner, même dans les moments les plus intimes, disons.
Pieds nus dans les courants d'air pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin. Accorde mon rosé à pêche, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardente aiguillon de la chair. La truite de Schubert, elle fredonnait la truite de Schubert.
Cette semaine, dans le champ lexical, s'attarde à la chanson « La maman des poissons » de Robert Jean-François-Joseph-Pascal Lapointe, dit « Bobby ». Il s'agit au fond d'une chanson faussement enfantine, truffée de double sens et de jeux de mots. Bobby Lapointe y énumère les avantages d'être un poisson et donc d'avoir une maman poisson. La maman des poissons est bien gentille, car lorsque ses petits s'oublient à faire pipi au lit ou bien sur leurs chaussettes, ou bien à cracher, comme des papolis, elle reste muette. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné, sardines. Aussi, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui va les en empêcher, il y en a même un qui s'est marié à une grande république. Quant à Bobby Lapointe, la maman des poissons, il l'aime bien aussi, avec du citron.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui, leur montrant comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêves sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Voici quelques idées de tours à faire pour le poisson d'avril.
J'ai pris une petite corde, puis j'ai fait un poisson d'avril. J'ai marqué dessus. Ce véhicule est conduit par un poisson d'avril. J'y ai caché sous le char. Fait qu'il s'est en allé travailler, puis il y avait le poisson qui s'en allait au bout du char tout le long du voyage. Quand il a vu ça, il n'a pas trouvé ça drôle. Il attend que je t'attrape. Toi. Oh!
Hein? Ouais, moi je pine des femmes mariées pour la Saint-Valentin. Non, c'est quoi déjà?
Poisson d'avril!
Ah, poisson d'avril! Hey, non, c'est une joke, là. Ah ouais, OK.
Un genre de tour efficace. Enlever toutes les étiquettes de cannes de conserve chez quelqu'un. C'est assez efficace. Après ça, il faut qu'il se demande qu'est-ce qu'il va manger en ouvrant une canne.
Moi, là, cette année, le coup que je vais faire à mon père, c'est autre, parce qu'il prend beaucoup de café, mon père. Fait que je vais changer le sucre pour du sel. C'est un bon truc.
Je vais dire à ma blonde que j'ai crissé une grosse africaine enceinte.
Qu'est-ce qui se passe, Gabriel?
T'es con!
Je vais entarter Stephen Harper.
Vite de même, là. Moi, mon coloc, je mets tout le temps un pot d'eau en haut de la porte, puis ça lui tombe sur la tête quand il sort de la douche. Ça le met en crisse. Il y a ça, il y a plein d'affaires.
Qui c'est qui mope après?
T'es lui.
En plus!
Chris, il y a la serviette en entour de lui, il peut bien s'arranger en dessous.
Ok, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ici, là, de fucking drôle? Ah, ben ça, c'est bon, là, tu sais. Je vais attendre que ma coloc, elle va être dans la douche, là. Je vais aller dans la cuisine, je vais crisser l'eau chaude dans la cuisine, là. Elle va se geler le cul, là. Elle va capoter, elle va crier. Ça va être fucking drôle.
Tu mets de la farine dans son fer à cheveux. Tu sèches les cheveux, là.
T'attends qu'elle prenne un bain, tu branches les séchoirs, puis tu crisses le propre,
là. Il y a les petits classiques, là. Tu mets le tape sur le téléphone, là. C'est la petite chose, là, quand ils répondent, ça veut jamais répondre. Sinon, je peux pas te dire vraiment.
Moi, pour le 1er avril, là, le poisson d'avril que je fais, là, c'est que je rentre chez quelqu'un puis je pète tout avec un bat de baisse. Là, je dis poisson d'avril puis je m'en vais.
Attention, il va partir avec ton iPhone.
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. L'émission est une réalisation de Mathieu Charlebois et Joannie Larue. Ont monté la rivière avec nous cette semaine. Christiane Campagna aux chansons thématiques, Chloé Barry à l'histoire de vieux poissons et Annie Rossano au Vox Pop. Dans vos oreilles ont joué La journée qui s'en vient est flambant neuve d'Avec Podcast, Juste pour être sûr, de Simon Kingsbury, et Le Monstre, de Karim Ouellet. Restez sur les ondes de CIBL parce que dans un instant suit, le DJ est une ordure. Pour notre part, on vous revient la semaine prochaine pour parler de mort. En attendant, on vous laisse sur cette citation du producteur, réalisateur et scénariste italien Ettore Scola. Je suis un poisson, ascendant mayonnaise.
S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mon oublié. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde un peu de lumière, tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure du vampire, achever son empire à s'en déchirer le linge. Et quand on s'endort, on oxe, poussé dans des pensées comme mauvaise herbe et passer à l'action. Chasse même les sorcières, put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire. Grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude. Mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on!
Come on!
S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mon oublié. Changer ce monde un peu de musique. This is how we use it, how we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde un peu de lumière. Tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Ma maman qui montre ça ne se peut pas.
Vendredi, soir,
mercredi,
après-midi.
Quand on dormira pour de bon.
Mmh.